Lasst uns Psalm 146 aufschlagen.
Ouvrons le psaume 146. L'intitulé est « Heureux celui qui se confie dans le Seigneur ». Et ça commence par un « Alléluia ». Psaume 146, verset 1. « Loue le Seigneur, mon âme. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, ni aux hommes qui ne peuvent pas sauver. Quand le souffle leur manque, ils retournent à la poussière. Le même jour, leurs projets sont anéantis. » Verset 5. « Heureux celui dont l'espérance est le Dieu de Jacob, dont l'espérance repose sur le Seigneur son Dieu. En celui qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, celui qui est fidèle pour toujours, qui fait justice aux opprimés, qui donne le pain à ceux qui ont faim. Le Seigneur délivre les captifs, le Seigneur donne la vue aux aveugles, le Seigneur relève ceux qui sont courbés, le Seigneur aime les justes. » Verset 9, « Le Seigneur protège l'étranger, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse les voies des méchants. Le Seigneur règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste de toute éternité. Alléluia. » Ce sont des paroles merveilleuses que le psalmiste exprime ici. Et il a mis son espérance dans le Seigneur. Et nous pouvons nous joindre à lui et placer nous aussi notre espérance dans le Dieu vivant. Et il dit au verset 5, « Heureux celui dont l'espérance est le Dieu de Jacob, dont l'espérance repose sur le Seigneur son Dieu. » Amen. Et je crois, chers frères et sœurs, que nous n'avons personne d'autre sur qui nous pouvons mettre notre espérance, mais nous pouvons placer notre espérance en lui. Nous ne devons pas compter sur des grands ou sur les hommes qui ne peuvent pas nous aider. Quand le souffle leur manque, le même jour, leurs projets sont anéantis, selon le verset 4. Mais nous pouvons placer notre espérance en Dieu et nous savons que nous sommes en sécurité. Que nous vivions dans ce monde ou que nous quittions ce monde, nous avons une espérance véritable. Amen. Non pas celle que les hommes donnent, mais celle que Dieu donne. Et celui qui place son espérance en lui est en sécurité pour le temps et pour l'éternité. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous voulons cet après-midi encore invoquer ce Dieu, notre Dieu qui est notre Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons lui offrir la gloire. Levons-nous pour cela et faisons-le ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de cœur, même en cette heure. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons en qui nous mettons notre confiance ou notre espérance. Seigneur, nous savons que tu es notre espérance et notre force. Et nous savons, Seigneur, que nous plaçons notre espérance en toi et que nous ne poursuivons pas nos propres projets, mais que nous suivons ton plan et que tu as établi ce plan que tu as établi pour toujours, ô Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour la précieuse parole, pour ce temps que tu as donné en nos jours. Seigneur, nous te remercions pour la lumière. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous sommes si heureux de pouvoir t'appartenir et de nous sentir liés à tous les saints qui ne sont pas morts, mais qui vivent pour l'éternité. Seigneur, ils ont placé leur confiance en toi et ils peuvent aujourd'hui voir ce qu'ils ont cru. Car, alléluia, Seigneur, nous croyons aussi de tout cœur. Oui, de tout cœur comme ils ont cru, car il n'y en a aucun d'autre. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, Tu es depuis le commencement et tu demeures dans toute éternité. C'est pourquoi nous te louons cet après-midi encore. Seigneur, nous sommes si heureux qu'il soit écrit ici, heureux celui dont l'espérance est le Dieu de Jacob. Seigneur, nous pouvons dire que tu n'es pas seulement notre espoir ou notre espérance, mais que tu es aussi notre secours dans les jours de la détresse et de l'affliction. Seigneur, gloire à ton glorieux nom. Toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle comporte. Oui, Seigneur, tu es celui-là qui est fidèle à jamais. Seigneur, nous l'avons lu. Lorsque nous, les hommes, nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Gloire à ton glorieux nom. Louange et adoration te soient rendues, même en cette heure d'après-midi. Seigneur fidèle, nous venons humilier devant toi et nous te prions de nous bénir. Bénis ton messager, bénis ta parole, Seigneur. Fais que ta parole soit puissante au milieu de nous, ô Seigneur, c'est notre désir. Et que ton esprit parvienne à ce qu'il revient de droit. Gloire à ton merveilleux et glorieux nom. Seigneur, tu peux tout. Nous remettons tout entre tes mains. Et nous nous remettons aussi entre tes mains, sachant que tu donneras au-delà de ce que nous demandons et pensons. Remercié sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciements au Seigneur de ce que nous croyons et savons qu'il en est ainsi. Et de ce que nous plaçons notre confiance totalement dans la grâce et dans le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a parlé et qui a placé en nous la parole comme semence, comme promesse qui portera le fruit. Ce week-end, nous avons médité des précieuses pensée tirée de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas tarder, mais nous lirons encore quelques passages de l'Écriture avant d'entrer ensemble dans la prière, afin de prier Dieu de faire de sa parole une réalité vivante en nous. Que nous ne l'ayons pas seulement entendu, mais que nous la remuions dans notre cœur, afin que Dieu puisse la confirmer. Oui, même qu'elle puisse devenir une réalité. Le premier passage que j'ai lu hier soir se trouvait dans Marc chapitre 12 et concernait les personnes envoyées par les pharisiens et par les partisans d'Hérode. Et quand ils sont arrivés au Seigneur, ils ont dit, Marc 12, verset 14, deuxième partie, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne fais exception de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Amen. Ces personnes voulaient poser des questions pièges, mais devaient volontairement ou pas donner un tel témoignage ou faire sortir un tel témoignage de leurs lèvres. Ils se tenaient devant le véritable et n'ont pu rien dire d'autre que ce qui s'appliquait à lui. Dans l'évangile de Jean, il y a deux paroles que je voudrais lire. Elles nous sont connues à tous. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 33. Jean, chapitre 3, verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié par là que Dieu est vrai ou véritable. Car, verset 34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Nous avons également parlé de cela. Que les hommes parlent en leur propre chef. Et nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Si leur souffle leur manque, alors leurs plans sont aussi anéantis. Mais si nous considérons le plan de Dieu, alors nous devons dire que l'heure a sonné, avait sonné pour un Enoch, qu'elle avait sonné pour un Noé, qu'elle avait sonné pour un Abraham, pour un Isaac, pour un Jacob, pour un Moïse. Oui, est-ce que quand cette heure avait sonné, est-ce que c'était terminé avec le plan de Dieu? Non, non. Le plan de Dieu a continué parce que c'était des hommes de Dieu qui ont été en contact avec Dieu et qui ont annoncé le plan de Dieu en témoignant de ce que le Seigneur leur avait révélé. Le plan de Dieu n'a jamais cessé et ne cessera jamais. Dieu exécute son plan. Et nous voulons être une partie de ce plan divin comme l'ont été tous les prophètes et les hommes de Dieu dès le commencement. Même avec notre Seigneur, quand il a été crucifié, beaucoup ont pensé que c'était maintenant la fin. Mais ce n'était pas la fin, c'était un nouveau commencement. Avec Dieu, il n'y a pas de fin. Ça continue toujours. Et nous le voyons aussi avec les apôtres. L'un après l'autre, ils ont été repris. Et puis à la fin, il ne restait que Jean sur l'île de Patmos. Et c'est à lui que le Seigneur a donné les choses prophétiques qui nous sont particulièrement précieuses en ce temps et qui ont une grande importance. Notre Seigneur a rendu témoignage sur la terre de manière diverse. Et il est écrit ici dans Jean 3 au verset 33, « Celui qui a reçu son témoignage a certifié par là que Dieu est véritable. » Lorsque Paul écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Approchons-nous du trône de la grâce avec un cœur sincère, dans la foi totale, afin d'obtenir miséricorde et être secouru, selon Hébreux 4, verset 16, alors cela ne peut être qu'en ceux qui ont été pénétrés par la vérité divine. Aucun homme n'est vrai ou véritable en lui-même. Dieu seul est vrai, véritable. Et tout homme est un menteur, selon Romains 3, 4. Mais si nous sommes pénétrés par la véracité de Dieu, alors nous pouvons nous présenter devant lui dans cette véracité divine et entendre ou attendre de lui le secours. Dans l'évangile de Jean, au 7e chapitre, il est écrit à partir du verset 17, Jean chapitre 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si cette doctrine vient de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Verset 18. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai ou véritable. Et en lui, il n'y a point d'injustice. Jésus a toujours souligné qu'il était envoyé de Dieu. Tout comme les prophètes étaient envoyés de Dieu. Jean était un homme envoyé de Dieu. Et Jésus a souligné, celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Selon Jean 18, verset 29. Cet envoi divin est lié à la parole de Dieu et au plan global de Dieu. Il n'y avait pas de prophète qui n'était pas lié au plan global de Dieu. Tous les prophètes, du premier au dernier, ont eu une part à ce que Dieu a annoncé ou a fait annoncer à l'avance. Et de même manière aussi, tous ceux qui ont été appelés à annoncer l'évangile depuis Golgotha, tous ceux-là ont reçu une part à la mission divine, à l'œuvre divine. Et dans ce cas, les choses sont claires. Jean 17, verset 18. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Et cela ne peut pas être dit plus clairement. Et la deuxième partie du verset 18 dit, « Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai ou véritable. » Amen. Un envoi divin est nécessaire pour pouvoir parler au nom du Seigneur. Et certainement, il ne s'agit alors plus d'honneur. Alors là, nous devons subir la honte. Paul, en tant que le grand apôtre, a dit, « À nous, apôtres, est assignée la dernière place. Nous sommes traités comme des excréments, comme de la balayure, selon 1 Corinthiens 4, verset 13. » Alors que personne ne croit pouvoir recevoir les honneurs avec la cause de Dieu, il s'est alors trompé. Mais le temps viendra. Lorsque les choses terrestres seront terminées, et nous entrerons dans la gloire, c'est alors que les choses changeront. Ici sur terre, nous n'avons rien à voir avec l'honneur. Au contraire, nous devons passer par le mépris, par la calomnie, par l'opprobre, par tout. Et le Seigneur dit, heureux, heureux ceux qui subissent tout cela, car c'est ainsi que les prophètes ont eu à subir tout cela. Amen. Selon Matthieu 5, verset 12. Je ne veux pas parler de mon propre chef, et je crois que Frère Branham n'a pas non plus parlé de son propre chef. Je suis convaincu que Dieu a parlé au travers de lui, Frère Branham. Il n'a pas cherché son propre honneur, car alors il aurait dit aux gens ce qu'ils ont entendu déjà depuis longtemps et qu'ils aimeraient encore entendre aujourd'hui. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il n'a pas dit ce que les hommes avaient envie d'entendre. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Car il y a déjà assez de l'autre genre, l'autre catégorie. Chacun regarde ou sa propre voix, mais pas la voix de Dieu. Alors remercié soit le Seigneur de ce qu'il est envoyé avant sa seconde venue, un homme qui redresse ce qui est courbé, qui abaisse ce qui est élevé, qui élève ce qui est bas, afin qu'un peuple préparé puisse se présenter pour le Seigneur, être manifesté pour le Seigneur. Jean 7, verset 18. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Et si cette parole est vraie, et nous le croyons, alors tous ceux qui vont et parlent de leur propre chef ne cherchent que leur propre gloire. Alors le Seigneur dit, dans la seconde partie du verset 18, Jean 7, verset 18b, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Amen. Considérons maintenant deux ou trois passages de l'Apocalypse. Deux ou trois Les deux premiers sont tirés du troisième chapitre. Ici, il est dit au verset 7, Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ainsi parle le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il s'agit principalement de l'expression « Ainsi parle le Saint, le véritable ». Du véritable ne peut jaillir ou sortir que la vérité ou la véracité. Et de même que nous sommes et venons tous terrestrement d'Adam, de même nous sommes tous spirituellement selon le second Adam, selon Christ, conformément à la véracité de Dieu qui s'est révélé en lui, Christ. Ainsi parle le Saint, le véritable. Apocalypse 3, verset 7. Il n'est pas seulement véritable, mais il est le véritable. Et nous l'avons déjà mentionné hier soir, de 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous sommes dans le véritable, en son Fils. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous devons le savoir. Nous devons nous considérer comme une réalité divine. Si nous sommes dans le doute quant à notre identité spirituelle, alors Dieu ne pourra pas aller loin avec nous. Nous devons savoir qui nous sommes et ce que nous sommes et à quel but Dieu nous a destinés. Amen. De manière terrestre, nous pouvons tous nous identifier qui nous sommes. Et c'est ce qu'on appelle une carte d'identité. Et Paul écrit que cette identité a été faite par l'esprit et la force. Mais Dieu veut que nous comprenions quelle est notre identité spirituelle. Dieu veut que nous sachions qui nous sommes. Il veut enfin pouvoir nous faire confiance et compter sur nous. Amen. Et nous aussi, nous voulons compter sur lui. Notre Seigneur, Dieu, a pu dire, notre Seigneur a pu dire que Dieu l'exauce toujours parce qu'il fait ce qui lui est agréable. Et si nous sommes maintenant dans le véritable en tant que des fils et des filles de Dieu, et que nous sommes imprégnés par sa véracité divine, alors ce n'est plus pour nous une théorie, mais c'est une substance divine. Alors nous ne sommes pas seulement dans le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu est aussi en nous. Amen. Et à la fin des jours, il s'avérera que nous n'avons pas couru en vain, que nous n'avons pas écouté et prêché en vain, mais que la parole de Dieu, pour ce temps, accomplira dans ce temps ce pourquoi elle a été envoyée. Apocalypse 3, verset 7. Ainsi parle le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous nous souvenons là à la parole d'autorité que le Seigneur a prononcée. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Et ce que vous aurez lié sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Selon Matthieu 16, verset 19. Autorité divine au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parmi ceux qui ont placé leur confiance, non pas en des hommes, mais en Dieu, et ils ne seront pas déçus, au contraire, ils seront bénis. Amen. Dieu est une réalité. Sa parole est aussi vraie et sainte qu'il est saint et véritable. Amen. Il ne peut plus retirer sa parole. Ce qu'il a dit, la chose demeure ainsi. Dans Apocalypse chapitre 3, au verset 14, il est écrit, Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement ou l'origine de la création de Dieu. Amen. Nous avons aussi déjà parlé de cette pensée. Celui qui est l'Amen. La réalisation. La conclusion. Le dernier. En qui tout est récapitulé. Et parvient à l'achèvement ou à la perfection. Ainsi parle celui qui est l'Amen. Nous pouvons tous dire Amen. Mais lui, il est l'Amen. Est-ce que nous le comprenons? Ainsi parle celui qui est l'Amen. Si nous lisons à cela 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 et 21, il est dit, 2 Corinthiens 1, verset 20, « Car pour nous, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen est prononcé par lui à la gloire de Dieu. Il est le oui, il est l'Amen. En lui est la confirmation et l'accomplissement. Ainsi parle celui qui est l'Amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi et il en est ainsi. Ainsi parle celui qui lui-même est la parole et en qui toute parole trouve son accomplissement. Et aucune écriture ne sera brisée. Aucune promesse ne restera sans être accomplie. Ne sont pas là des déclarations glorieuses de la parole de Dieu? Ainsi parle le Saint et le véritable. Et ensuite, ainsi parle celui qui est l'Amen. Ces expressions n'auraient pas pu être écrites dans les 6 premières lettres aux églises. Seulement dans la dernière, dans la 7e lettre, là où toutes choses arrivent en effet à leur conclusion. Où l'on ne commence pas, mais là où tout s'achève. C'est là qu'ainsi parle celui qui est l'Amen, en qui tout devient réalité, qui réalise tout. Ainsi parle celui qui, non pas dans la première lettre, non pas dans la deuxième lettre, non pas dans la troisième, ni dans la quatrième, mais dans la dernière lettre, dans la 7e lettre aux églises. La lettre à l'église de Laodicée. Il se présente à nous comme l'Amen, dans lequel toutes choses trouvent leur accomplissement, leur conclusion, leur achèvement, comme le témoin fidèle et véritable, comme le commencement de la création de Dieu. Nous avons aussi déjà parlé de cela. Celui qui a commencé est celui ou elle-même qui achèvera. Celui qui a parlé est le même qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Car sa parole n'est pas constituée de paroles vides, mais sa parole contient les promesses qui doivent s'accomplir. Et c'est précisément dans cette dernière lettre, la lettre à Laodicée, que l'état de l'Église est décrit. Apocalypse 3, verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche et je n'ai plus besoin de rien. Mais aux yeux de Dieu, nous avons tous l'air assez pitoyable. Il n'y a pas d'exception. Ou quelqu'un qui pourrait venir et dire, cette parole ne s'applique pas à moi. Celui qui le dit ou qui le... Celui-là passe à côté de la réalité. Et il ne sera pas non plus aidé parce qu'il ne considère pas l'aide comme nécessaire. Mais c'est justement ici qu'il est dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Apocalypse 3, verset 18. Ici, il n'est pas parlé des lèvres qui doivent être oints, ni de la langue, mais ici, il est parlé des yeux qui sont oints. Et nous en avons déjà parlé, beaucoup peuvent parler plein d'onction, mais ils parlent sans onction et passent à côté de Dieu. Ici, il s'agit d'oindre les yeux. Pourquoi? Nous avons lu hier soir la parole des voyants, des prophètes. Nous vivons dans un temps prophétique. Amen. Il ne s'agit plus seulement d'agiter les lèvres, de bouger les lèvres. Il s'agit d'avoir un regard, une vue prophétique, de recevoir une vue dont nous avons besoin pour voir comme le voyant, le prophète a vu. Est-ce que nous le comprenons? C'est nécessaire, car nos propres pensées sur la parole de Dieu ne font avancer personne. Au contraire, tout au contraire, elles nous éloignent du but. Nous devons avoir les pensées divines. Apocalypse 3, verset 18. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Et nous pensons ici à la parole de l'évangile de Jean. Lorsque les scribes vinrent trouver Jésus et lui dire, tu veux dire que nous aussi nous sommes aveugles? Selon Jean 9, verset 40. Il répondit au verset 41, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais puisque vous prétendez voir, votre péché demeure. Il est possible que même dans la présence de Jésus-Christ, là où il parle, là où il révèle sa parole et sa volonté, il est possible que des gens vivent véritablement dans l'illusion spirituelle de voir, d'avoir une vision très claire. Et cela n'est pas possible. En présence de Jésus, il ne reste personne qui voit encore ou qui entend encore. Tout le monde perd la vue et perd l'ouïe, et nous nous concentrons uniquement sur ce qu'il dit et sur ce qu'il révèle. Ainsi parle celui qui est l'Amen. Amen. Le témoin fidèle est véritable. Nous avons très souvent insisté sur le fait que nous croyons que le Seigneur qui marche au milieu des sept chandeliers d'or est celui qui parle et qui agit dans son Église. Et nous attendons, ou nous n'attendons pas en vain, nous attendons l'accomplissement de ses promesses qu'il nous a données dans sa parole. Nous les portons dans notre cœur. et savons que Dieu veille sur elles pour les mener à leur accomplissement lorsque l'heure sonnera pour qu'elles deviennent ou qu'elles soient une réalité. Sans effort. Et nous pouvons encore nous exprimer et dire, je ne sais ou je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il à l'exemple de Marie? Et l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Selon Luc 1, verset 35, heureux celui qui en ce temps ne connaît point d'homme, ne connaît rien de personne. Heureux les personnes qui ne reçoivent en eux que la pure parole de la promesse. Ce sont eux, en effet, qui seront alors récompensés de leur attente. L'attente aura valu la peine. Nous pourrions maintenant mettre en scène beaucoup de choses humaines. Nous pourrions faire beaucoup d'impressions. Et que se passera-t-il quand tout cela sera terminé? Quelle impression ferions-nous alors? Où serions-nous alors? Que cela soit loin de nous. Celui qui prononce les paroles de Dieu est envoyé par Dieu. Et nous savons que nous ne pouvons pas les accomplir nous-mêmes, mais nous pouvons les proclamer et croire de tout cœur et attendre qu'elles s'accomplissent ou qu'elles trouvent leur accomplissement. Jusqu'au dernier jour, nous renoncerons volontairement à faire quelque chose de propre ou de personnel dans le royaume de Dieu. Mais jusqu'au dernier jour, nous attendrons que le Seigneur accomplisse tout ce qu'il a promis en accord avec sa parole dans l'Église et aussi par l'Église. Amen. Lors de la première venue de Christ, beaucoup n'ont pas pu attendre. L'un d'eux s'est fait passer pour quelque chose de particulier, de spécial. Il a pris un certain nombre de personnes dans le désert. Il a semé la confusion parmi eux. Mais les siens, qui attendaient la consolation d'Israël, ont pris patience jusqu'à ce que l'heure de Dieu ait sonné. Nous aussi, nous ferons de même par grâce. Nous prendrons patience, mais dans une foi totale, sans hésiter, sans chanceler, nous nous accrocherons à tout ce que le Seigneur a dit. Et pour la grande troupe qui prendra part au festin de noces, voici ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 19, la dernière partie du verset 9. Apocalypse 19, verset 9b. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Nous ne voulons rien de plus que des véritables paroles de Dieu. Et si nous allons ou nous n'allons pas au-delà de ce que Dieu a révélé, nous ne le faisons pas par nous-mêmes en nous imposant une quelconque retenue. Mais si nous n'allons pas au-delà de ce que Dieu a révélé, c'est parce que l'Esprit de Dieu ne nous permet pas d'aller au-delà de ce qui a été écrit dans la parole, révélé par l'Esprit et proclamé dans le dernier message. Ce n'est pas ton mérite, ce n'est pas le mien. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous lie à la parole de Dieu. Amen. Et un homme qui est lié à la parole de Dieu, c'est un homme libéré par l'Esprit. Un tel homme se trouve alors dans la liberté de l'Esprit, dans la liberté des enfants de Dieu. toute interprétation personnelle est un asservissement et une mise sous tutelle des autres. Dieu n'a besoin de personne qui interprète. Il a parlé et nous avons reçu son discours. Et ce discours contient toutes les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et nous les croyons de tout notre cœur. Oui, nous sommes également convaincus, que Dieu ne peut rien ajouter et n'ajoutera rien à ce qu'il a dit. Car c'est ainsi que c'est écrit. N'ajoutez rien à ses paroles et n'y retranchez rien. Cette mise en garde n'est pas seulement écrite dans les Proverbes, mais aussi jusqu'au dernier livre de la Bible. Apocalypse 22, verset 18-19, Proverbes 30, verset 6. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Nous voulons être une épouse parole, une église parole. Nous ne le faisons pas en attendant quelque chose de manière crispée. Faisons-le avec le cœur reconnaissant comme Marie l'a fait. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Car il a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Amen. Selon Luc chapitre 1, verset 46. Bien-aimé, il en est de même pour le peuple de Dieu en ce temps. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, selon Jacques 4, verset 6. C'est pourquoi, lorsque nous prierons aujourd'hui, remercions le Seigneur avec confiance, avec assurance, avec une foi totale, non seulement parce qu'il nous a parlé, en tant que le fidèle et le véritable, mais aussi parce que en tant que le fidèle et le véritable, il va accomplir ce qui a été dit, le mettre en pratique et le faire devenir une réalité divine. Et comme nous l'avons mentionné cet après-midi ou cet avant-midi ce matin, si les hommes de Dieu avaient déjà été appelés Dieu dans l'Ancien Testament, parce que la parole leur avait été adressée, alors nous pouvons répéter ce que Dieu a écrit, ce que Paul a écrit. Nous sommes une race divine. Christ, le commencement. Christ comme commencement de la création de Dieu. Nous avons tous été engendrés de la même manière, par la même parole et par le même esprit, et nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante par la grâce de notre Dieu. C'est pourquoi nous avons confiance et assurance en notre Dieu, qu'il augmente, amen, et qu'il nous fasse grâce en tout moment, même si cela passe par les profondeurs diverses, que nous soyons conscients que nous sommes des porteurs des promesses divines. Et laissez-moi vous dire ou vous poser une question pour conclure. Pensez-vous que notre Seigneur soit descendu en enfer en tremblant? Ne le croyez pas, n'y pensez même pas. Pensez-vous qu'il ait eu peur de la mort, de l'enfer ou du diable? N'était-il pas écrit? David n'avait-il pas dit par l'Esprit, « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, et je t'ai fait connaître le chemin de la vie? » Des promesses n'étaient-elles pas écrites sur lui? Absolument. Et c'est bien avec ces promesses qu'il est descendu. N'était-il pas écrit qu'il a amené les captifs et qu'il a fait des dons aux hommes? Est-ce que ce n'était pas écrit? Cela s'est rapporté à lui. Qu'avait-il à craindre? Il était la parole manifestée en chair. Et toutes les promesses de la parole se sont accomplies en lui. De sa naissance, tout le long de sa vie, à travers son ministère, ses souffrances, sa mort, sa descente aux enfers, sa résurrection, son ascension, il y avait partout des promesses qui s'accomplissaient en lui. Amen. N'en est-il pas de même pour nous? Devons-nous avoir confiance en nous? Devons-nous compter sur nous? Alors nous serions les plus pauvres et les plus misérables parmi les plus misérables et les plus pauvres. En qui est-ce que nous bâtissons? En qui est-ce que nous mettons notre confiance? Oui, nous bâtissons et nous faisons confiance au Dieu vivant. Et ses promesses, comme elles ont trouvé leur accomplissement pour la tête Christ, elles devront obligatoirement trouver leur accomplissement pour tous les membres du corps. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Notre Seigneur a expérimenté l'accomplissement de toutes les promesses écrites sur lui. Nous devons, nous, ne devons-nous pas avoir la même confiance dans le fait que chaque promesse que Dieu a donnée à son peuple s'accompliront en nous? L'Écriture ne peut pas non plus être brisée ici. Amen. Ce que Dieu a dit demeure. Et notre Seigneur est le fidèle et le témoin véritable. Il est l'Amen. En lui, tout trouve sa réalisation et son achèvement. Nous en sommes reconnaissants et qu'il puisse nous accorder d'avoir part à cela. Loué et glorifié soit son saint nom. Amen. Nous te remercions pour ta puissante présence. Nous te remercions pour ce week-end, pour chaque parole, ô Seigneur, que tu nous as adressée. Nous te remercions sincèrement pour cela, ô Seigneur, que nos cœurs l'aient reçu, qu'il porte du fruit pour l'éternité, Seigneur. Nous te remercions, ô Seigneur, de ce que tu nous as parlé si merveilleusement, de ce que tu as un plan, que tu es dans ton plan, Seigneur, et que tout doit être soumis au Seigneur. Alléluia, ô Jésus, que veux-tu que nous te disions? Reçois l'honneur, reçois la gloire et l'adoration, Seigneur, de nos cœurs et de nos bouches à tous. Et je te prie aussi particulièrement maintenant à la fin de bénir mes chers frères et sœurs, tous ceux qui sont venus pour écouter ta parole. Seigneur, il y avait certainement un désir intérieur de recevoir ta parole, une faim, une soif. Puisses-tu bénir leur cœur. Puisses-tu avoir béni leur cœur et apaisé leur désir. Je te remercie et je te prie que tu sois avec eux sur le chemin du retour, que tu le sois aussi avec nous, oui, pour les jours à venir. Seigneur, nous voulons garder les regards fixés sur toi et sur ton agissement, sur ton action, car nous croyons de tout cœur que tu te révéleras encore puissamment, Seigneur. Alléluia, à toi soit la louange et l'adoration. Seigneur, nous ne voulons pas nous précipiter, mais nous attendons, Seigneur, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Alléluia, louange et gloire te soit rendu à toi, l'agneau, maintenant et pour toujours. Alléluia. Amen. Amen.